Dan Mag, T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, que vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Complice et partenaire de Majelire et ses passeurs de mots, le Titan Mag a rencontré Michel Perrault durant toute une journée. Michel Perrault est professeur émérite de l'Université Paris 7, Denis Diderot. Elle est agrégée d'histoire. Elle est aussi chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. En 2014, elle se voit décerner le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Michel Perrault a beaucoup travaillé sur le mouvement ouvrier. Elle a animé pendant 5 ans avec Robert Badinter un séminaire sur la prison, puis s'est penchée sur l'histoire des femmes, dirigeant avec Georges Duby une monumentale histoire des femmes en Occident, éditée par la librairie académique Perrin. Plus tard, elle se fait remarquer par un ouvrage magnifique, « Histoire de chambre », aux éditions du Seuil, où elle déploie son immense érudition servie par une plume qui nous vaut des pages d'une grande beauté. Plus récemment, elle a écrit une monographie, « Mélancolie ouvrière », où elle raconte le destin d'une ouvrière de la soie au début du XXe siècle, Lucie Beau, pionnière méconnue d'un syndicalisme féminin soucieux avant tout d'améliorer les conditions de travail des ouvrières d'alors, soumises par leur patron à des impératifs de rendement difficilement supportables.
Michel Perrault, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement de cet entretien que vous accordez à Couleur FM. Nous allons parler de Lucie Beau et de votre livre, Mélancolie ouvrière. Mélancolie ouvrière qui est paru en 2013 et qui évoque la figure de cette femme, Lucie Beau, ouvrière, tisseuse de la soie, d'abord à Visil, puis à Voiron. Peut-être qu'avant de démarrer l'entretien, on va donner quelques repères biographiques de façon à fixer un petit peu les différentes périodes de sa vie. Lucie Martin est née en 1870. Elle commence à travailler à l'âge de 12 ans. Elle épouse Pierre Beau, garde champêtre à Visil en 1891. Avec lui, elle aura 3 enfants, un garçon qui ne vivra que quelques mois, et 2 filles. Son mari meurt en 1902. En 1905, elle prend la tête d'une grève des ouvrières de la soie à Visil, puis se retrouve à Voiron, où elle participe à une nouvelle grève. Nous sommes en 1906. En septembre 1906, elle se tire 3 coups de revolver dans la bouche. Elle meurt en 1913. Alors, ce livre est publié dans une collection qui s'appelle « Héroïne ». On a un peu l'impression que vous vous méfiez de ce mot. En tout cas, vous vous interrogez. Autant le mot « héros » paraît clair, autant son équivalent féminin ne l'est pas tant que ça.
Oui, les jeunes femmes qui m'ont demandé ce livre sont donc chez Grasset. Caroline Fourest est certainement connue de vous, pas mal. Et leur idée, c'est ça. C'était d'avoir des héroïnes, mais des héroïnes inconnues. C'était ça leur idée, faire surgir des figures inconnues. Quand elles m'ont demandé, l'une d'entre elles, Fiametta Venere, est une de mes anciennes étudiantes. Donc c'était facile, elle m'a téléphoné, elle me dit « on fonde une collection, j'aurais bien que vous écriviez pour nous ». Bon d'accord, nos héroïnes, j'ai des héroïnes, moi je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Mais elle me dit, ça fait rien. Alors, on s'est rencontrés, je leur ai proposé des grands noms. Elles m'ont dit, non, Georges Sand, non. Quelle horreur. Je plaisante, bien entendu. Et elle voulait vraiment quelqu'un d'inconnu. Alors, j'ai cherché un petit peu dans mes souvenirs historiques, si l'on peut dire. Puis, je leur ai parlé de Lucie Beau. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure comment, moi, j'ai rencontré Lucie Beau pour la première fois. Alors, quand je leur ai dit qui elle était, elles m'ont dit « mais voilà, c'est exactement ce que nous voulons ». C'est tout à fait ça, une femme ordinaire, enfin inconnue, et qui a quand même fait des choses étonnantes. Voilà. Donc, c'est comme ça que les choses se sont déclarées, en quelque sorte. Mais c'est vrai que héroïne, ça pose des problèmes. En général, quand on parle des héroïnes pour une femme, c'est plutôt les qualités féminines à la puissance, je ne sais quoi. La soumission, la sainteté, l'obéissance, c'est ça l'héroïne féminine. Lucie Beau, ce n'est pas absolument ça, c'est tout à fait autre chose. À la limite, on peut même dire, on le verra, qu'elle a un peu un rôle d'homme, enfin, un rôle de leader, un rôle de parole publique, un rôle de révolté dans l'espace public. Donc, ce n'est pas une héroïne féminine traditionnelle, mais à mes yeux, c'est tout à fait une héroïne.
Alors, Lucie Beau, donc, vous voilà partie à la recherche de ces trains. C'est une première lecture de Mélancolie ouvrière. On referme le livre et on a l'impression que l'historienne que vous êtes est un peu dépitée. C'est une figure énigmatique, dites-vous.
Dépité, non, pas du tout, mais intrigué toujours. Le sentiment d'avoir fait ce que j'avais pu pour la retrouver, et puis de ne pas l'avoir vraiment retrouvée. Il y a dans sa vie une série d'énigmes que je ne suis pas vraiment arrivée à éclaircir. Et même à la fin de sa vie, il y a une espèce de pied de nez qui nous est fait, j'allais dire par le destin, si on peut dire. Elle a été enterrée, bon, on verra. Elle a été enterrée pas très loin de Grenoble. Et les descendants ont refait sa tombe. Et notamment, ils ont refait sa tombe à partir du moment où nous, Gérard et moi, nous avons commencé à en parler. Et en refaisant la tombe, le lithographe s'est trompé et lui a retiré une année de vie. C'est incroyable. Il a fait naître en 1871 alors qu'elle est née en 1870, dit l'état civil. Vous me direz que ça n'a aucune importance. Effectivement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pour moi, c'était comme une espèce de dernier signe du destin. Tu me cherches et tu ne me trouveras pas. Voilà. Et puis tu dis que je suis née à tel moment. Ben non, je ne suis peut-être pas née à ce moment-là. Et tout était un petit peu comme ça. Donc dépité, non, mais désarçonné souvent, oui.
Couleur FM 97.1 avec Michel Perrault, interrogé par Dominique. Nous venons d'entendre les chœurs des moines de Cheftogne dans Tropaire de Saint-Jean Chrysostome, de l'album Chant de la liturgie slavonne. Ce tropaire se chante au cours des matines de Pâques.
Quand vous vous approchez comme ça d'un personnage, ce que vous redoutez le plus, dites-vous, c'est la géographie.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, j'ai pas envie d'écrire la vie des saints, hein. J'ai pas envie d'écrire la vie des saints. Toute ma culture historique, tout mon travail historique est un travail de critique. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des admirations, qu'on n'a pas des adhésions, bien entendu. Mais quand même, l'histoire met une distance. Hein. Elle met une distance entre ce qu'on étudie et soi-même. Pendant longtemps, même, l'historien ne parlait jamais de lui. Ça change, ça a pas mal changé même. Mais pas d'agiographie, on ne va pas célébrer, on n'est pas là pour faire les annales des saints comme on le faisait autrefois. Le deal, si vous voulez, la difficulté, c'était c'est une héroïne. Et d'un autre côté, je ne veux pas faire le portrait hagiographique d'une héroïne. Je ne veux pas me lancer dans son éloge. Ce n'est pas son éloge que je fais, c'est une femme que j'essaie de retrouver. Voilà. Et pour laquelle j'éprouve assurément de l'empathie. Peut-être que je n'aurais pas pu faire ce travail si je n'avais pas eu déjà au point de départ un peu d'empathie pour elle. Mais cette empathie ne doit pas se substituer à mon travail d'historien. d'historienne en l'occurrence.
Alors il y a autre chose apparemment dont vous vous défiez un petit peu, c'est ce que vous appelez la pesée du social qui refoule le personnel.
Oui. Oui, alors ça demande en effet un peu d'explication. Le social, Lucie Beau est une ouvrière. Le risque, si vous voulez, c'est à travers sa stature d'ouvrière, son destin d'ouvrière, de décrire les usines. On en a aujourd'hui beaucoup parlé, et c'est très important, bien entendu. Mais c'est elle que je cherche là. En l'occurrence, ce qu'on me demande, ce que me demandaient mes jeunes patronnes, comme je les appelle, c'était de faire le portrait d'une femme. Donc, le social, je ne prends pas Lucie pour aller vers le social. Ce n'est pas Lucie pour connaître les usines textiles, c'est plutôt les usines textiles pour connaître Lucie. Voilà, ce cadre global qu'elle me fait connaître, que je connais par ailleurs, parce que bien entendu, j'ai été chercher, comme tous les historiens, dans des sources diverses et variées, mais toujours avec l'idée de elle, hein, puisque je suis, au fond, en charge de ce portrait. Donc c'est elle, c'est une personne. Et une personne, c'est toujours plus compliqué. Une personne, on ne peut pas réduire une personne à sa pure histoire sociale. Et à la limite, peut-être, dans un certain sens, que j'ai réussi, entre guillemets, naturellement, mon coup, puisque elle m'oppose obstinément des énigmes existentielles et que ces énigmes de son existence continuent à me poser problème. C'est donc que je me suis heurtée d'une certaine manière à ce qu'il y a toujours d'irréductible dans une vie. Irréductible. On peut faire toutes les biographies du monde sur les gens, accumuler les documents, chercher les gens. La personne nous échappera toujours, bien sûr. Elle nous échappera toujours. Donc, c'est pas étonnant, au fond, qu'elle m'échappe. Mais, ceci dit, il y a aussi d'autres raisons plus compliquées. Voilà. Alors, donc, vraiment, la personne.
Lorsque vous vous approchez d'un personnage comme ça, et on le voit également dans cet autre ouvrage, hein, les silences ou, les femmes ou les silences de l'histoire, vous aimez découvrir les paysages dans lesquels il a vécu. Hein, on vous voit dans le TER qui vous conduit de Lyon à Grenoble, oui. Et vous évoquez ces paysages. C'est important pour vous ?
Oui. Oui, oui, c'est très important. Et je dirais même que le temps passant, c'est de plus en plus important pour moi, les paysages que les gens ont vus, fréquentés, aimés ou pas aimés, je ne sais pas, au fond. Oui, c'est important, c'est important. Une vie, ça se passe dans des lieux. Ces lieux ont des formes. Ça peut être des maisons, ça peut être une ville, un village, bon, et ce sont aussi ces paysages, en l'occurrence la montagne tout de même, hein, et ça c'était pas rien d'avoir ça tous les jours sous les yeux, et je me suis beaucoup posé de questions, d'autant plus que il se trouve que le Dauphiné n'est pas une région que je connais spécialement bien. Moi, je suis une femme du centre de la France. Hein. On fait ce qu'on peut dans la vie. Moi, c'est la Touraine, c'est le Poitou, c'est des régions bien plus plates. Bon, mais du coup, elle m'intimide, votre région. Elle est intimidante quand on arrive, hein, et qu'on vient ici. Quand on va à Vizille, je suis allée à Vizille plusieurs fois, quand on est devant ce château, avec ses montagnes autour, avec la pensée de ce qui s'est passé aussi, enfin ça c'est autre chose, vous me direz, oui, il y a quelque chose d'impressionnant. Mais du coup, ça demande une lecture. Le paysage demande une lecture. Le paysage est comme un livre, et c'est très important, c'est aussi important que le reste. Au fond, connaître quelqu'un, c'est essayer de connaître quelqu'un. C'est connaître, bien sûr, sa place dans le temps, mais c'est aussi connaître sa place dans l'espace. Le micro-espace de la maison, l'espace plus vaste de la ville ou du village, et puis de la région. Hein, et savoir, est-ce qu'elle l'a parcouru ? Pour moi, c'était important de savoir si elle en était sortie ou pas.
Alors c'est pour les mêmes raisons probablement que vous vous rendez à Saint-Pierre-de-Mézages, le village, oui, où Lucie Martin est née, et puis à côté, oui, Notre-Dame-de-Mézages, où son futur mari également est né.
Absolument. Je dois à mes interlocuteurs, que je veux saluer ici, Gérard Mingat, Robert Ayot, André Gauthier, j'ai eu trois anges gardiens. Ça les fait un peu rire quand je leur dis ça. Mais trois personnes qui m'ont véritablement aidé pour cela. Et peut-être on aura l'occasion, on n'aura peut-être pas le temps de parler de tout, mais Gérard Minga, qui est un instituteur à la retraite et qui s'était déjà intéressé à Lucie Beau, bon, a été très important. Et c'est lui, avec lui, que j'ai beaucoup parlé. Il m'a, au fond, donné confiance dans le fait qu'on pouvait faire quelque chose sur Lucie Beau. Et il m'a tout de suite dit, mais il faut que vous veniez, il faut que vous voyiez. Alors on a pris d'autres rendez-vous, bien entendu, parce que la première rendez-vous était un peu rapide. Et puis je suis revenue voir ces lieux avec lui, avec Robert Ayot, qui est un ancien ouvrier de l'industrie chimique à la retraite maintenant, qui prend beaucoup de photos et qui a pris beaucoup de photos pour moi. Et oui, j'ai visité ces villages. J'ai vu, par exemple, pour vous donner un exemple, dans le village de Notre-Dame-de-Mézages, la maison où était Lucie, et en bas, l'usine où elle a travaillé. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'elle, elle n'avait pas besoin d'être interne. Il n'y avait pas 10 minutes, pas même 7 minutes pour descendre de chez elle jusqu'à l'usine. C'était quand même très important de voir ça. Et de même, elle a épousé un garde champêtre. On va peut-être parler de son mari tout à l'heure, c'est très important aussi ça. Le garde champêtre est logé par la municipalité. Alors, quand elle a été mariée, elle a habité dans Vizil et on m'a montré le lieu où logeait la mairie, logeait alors le garde champêtre. Je pouvais très bien imaginer un peu les lieux. Oui, c'est important. Voir les lieux, c'est très important. Surtout quand on fait une biographie. Enfin, une biographie. Je n'oserais pas appeler ça une biographie, un parcours, un itinéraire.
Donc ces traces, hein, vous dites les lieux, il y a les photos. Et concernant Lucie Beau, on n'est pas très gâtés. On vous imagine même en train de chercher fébrilement sur les photos qui ont été prises lors des grèves. Par hasard, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître Lucie Beau avec sa fille ou sans sa fille? Et non, il y a combien de photos?
D'elle?
Une.
Une, et encore, on n'est pas sûr.
Et on n'est pas sûr.
Oui, oui, les photos sont très importantes parce que cette époque 1900, pour aller vite, est une époque de surrection, on pourrait dire, de la photographie. C'est quelque chose que les gens découvrent, les classes populaires découvrent aussi. La photographie devient quand même beaucoup plus accessible. Et au moment des grèves, les photographes de la ville, notamment à Voiron, à Vizil, il n'y a pas grand-chose malheureusement. Mais à Voiron, il y avait un photographe qui a pris des photos mais incroyables, des dizaines de photos magnifiques, hein, très belles. Et bien entendu, et Gérard Minga était dans le même état d'esprit que moi, on disait: elle doit y être, Lucie, dans ces manifs-là. Elle était forcément là. Bon, elle a deux filles. Qu'est-ce qu'elle faisait de ses filles? Peut-être qu'elle les emmenait avec elle. Alors, on va voir si on ne voit pas une dame, bon, une quarantaine d'années, un peu moins d'ailleurs, mais elle faisait plus. Et avec ses filles, on n'a pas trouvé. Ceci étant, j'ai eu quand même le plaisir, vraiment, de retrouver quelqu'un qu'elle a beaucoup, beaucoup admiré, qui était un leader, petit leader, pas un grand leader national, mais local, important, et qui est très certainement photographié sur une de ses photos, qui a été pour elle quelqu'un d'important. Alors, malgré tout, je n'ai pas répondu tout à fait à votre question. La photo, c'est étonnant cette histoire de photo. Gérard Minga a essayé, quand il a travaillé pour un article qu'il a fait dans une revue Les Amis du pays de Vizil, il a été retrouver les descendants de Lucie Beau, car elle a des arrières, non pas même, des petits-enfants. Maintenant des arrières, mais à cette époque c'était encore des petits-enfants. Il a retrouvé un vieux monsieur qui lui a dit: Lucie Beau, je crois, c'est ma grand-mère. J'entretiens d'ailleurs sa tombe au cimetière. C'est moi qui suis le dernier, donc je suis en charge de ça. Mais vous savez, je ne sais rien d'elle. Il ne savait rien. Et il était très heureux d'apprendre qu'elle avait été tout ça. Et il la découvrait, en quelque sorte, dans la conversation qu'il avait avec Gérard Minga. Et puis il lui dit: j'ai quelques photos de famille. Alors il ouvre un tiroir, comme on fait toujours dans ces cas-là. Il étale les photos intéressantes. Il y avait les filles de Lucie, tout ça. Puis il lui dit: voilà, cette photo-là, c'est probablement elle, mais je ne peux pas vous le certifier. C'est probable. En tout cas, ça correspond tout à fait à l'époque du point de vue des vêtements, du point de vue de... C'est vraiment une photo époque 1914, tout à fait. Quand j'ai vu cette photo pour la première fois, vous dirais-je que j'ai été déçue. Pourquoi ? Parce que je m'étais fait, comme tout le monde, une idée de Lucie. J'avais déjà ma Lucie à moi. Et ma Lucie à moi, étant donné qu'elle n'avait pas 40 ans, que je voyais les photos des jeunes ouvrières devant les usines, je la voyais beaucoup plus jeune. Et en fait, sur cette photo, où elle a moins de 40 ans, les calculs sont faciles à faire, en tout cas pas plus, elle fait facilement 10 ans de plus. Elle fait vraiment femme. Bon. Ceci dit, maintenant je me suis faite à elle. Et je la pense comme ça. Et je me dis toujours, mais pourquoi elle a fait faire cette photo ? Dans quelles circonstances ? Pour qui ? Elle est seule sur cette photo. Forcément, son mari était mort, donc elle a probablement fait faire cette photo après la mort de son mari. Mais c'est obscur tout de même. Et quelles étaient ses intentions quand elle a fait faire cette photo ? Mystère. Photos ne disent pas tout. Elles sont des énigmes nouvelles.
On va peut-être aborder sa vie publique, qui est très brève. 4 ans, qui commence en 1902, juste un peu après la mort de son mari. Peut-être se sentait-elle par rapport à lui un peu liée par une espèce de droit de réserve, vu égard à la fonction qu'il occupait dans la commune.
C'est plus que probable.
Toujours est-il qu'en 1902, elle y va carrément. Elle fonde le syndicat des ouvriers et ouvrières en soierie du canton de Vizille. C'est extraordinaire.
Oui. C'est étonnant et ça pose évidemment des problèmes sur son rapport à son mari. Son mari était garde champêtre. J'ai consulté des gens qui travaillent sur les gardes champêtres et je leur ai posé la question. Et la réponse de l'historien en question a été très claire. Elle ne pouvait pas mener une grève dans une ville où son mari était garde champêtre. Ça, c'était absolument pas possible. Donc, même si elle en a eu envie, elle ne l'a pas fait. En tout cas, toujours est-il que son mari meurt en 1902, elle fonde ce syndicat et 2 ans après, il faut croire qu'elle s'est fait reconnaître par les instances locales du syndicat, les camarades au fond, et elle est envoyée en délégation au congrès de l'industrie textile à Reims. C'est pas rien, parce que on envoyait un congrès national comme représentante des ouvrières du coin, ça veut dire quand même qu'on lui faisait confiance, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce congrès, dont on a le compte-rendu imprimé, les syndicats faisaient des choses extraordinaires, vraiment, dans cette époque où ils n'étaient pourtant pas tellement riches, et on a le compte-rendu détaillé. On sait même où elle était au bureau. Madame Lucie Beau, bureau entre monsieur un tel, monsieur un tel. Elle était la seule femme, que des hommes, elle était la seule femme. Et évidemment, le voyage qu'elle a fait pour aller de Vizille à Reims. Alors j'ai regardé un petit peu comment ça se passait pour les chemins de fer à cette époque-là. C'était pas rien. Il fallait qu'elle arrive d'abord à Grenoble. Bon, ça pouvait encore aller. Grenoble-Lyon. Il y avait déjà des lignes là. Ensuite, Lyon-Paris. Après, Paris-Reims. Avec la vitesse des trains de cette époque, c'était une expédition. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, Lucie. Comment est-ce qu'elle faisait ? Alors, on sait qu'au congrès de Reims, ils étaient logés. C'est même raconté dans le compte-rendu. On a installé les délégués à l'hôtel. Ils étaient très fatigués. Bon, évidemment. Des voyages pareils. Ils étaient très fatigués. Et voilà. Mais cette femme qui n'était pas sortie de son village, on peut dire, qui avait été à Grenoble, à Lyon, bien sûr, ça a quand même dû être quelque chose pour elle, ça. En plus, déléguée. Vous vous rendez compte ? Une femme qui sort complètement de l'ombre et qui est déléguée. D'ailleurs, au moment du congrès, on la salue tout le temps. Mais on la salue Madame Lucie Beau. Madame Veuve Lucie Beau. Je lui rappelle qu'elle est veuve. Madame Veuve Lucie Beau. Notre amie Lucie Beau. Jamais on lui dit camarade, bon, mais peut-être après tout qu'elle aimait mieux ça comme ça. Et on lui donne jamais la parole. Mais ça a dû être un épisode important pour elle, certainement très important.
FM 97.1 avec notre invité Michel Perrault. Nous avons entendu de l'album Les Nouvelles Polyphonies Corses, une berceuse qui en appelle à l'immensité des constellations et à la douceur des vents pour endormir l'enfant Nana.
Alors, avant d'en venir aux grèves, celle de Voiron d'abord, et puis celle de Visil, pardon, puis celle de Voiron, vous notez que la protestation est endémique dans les usines de l'Isère, oui. Des jeunes filles qui défilent dans les rues de Pavio, de Renage, pour protester contre les internats, notamment, la discipline, les pratiques de piété.
Tout ce qu'on a entendu ce matin, de la part de M. Herrero. Oui, il y avait d'autres documents, le montre, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. André Gauthier a fait une thèse sur les ouvrières en soie du textile dans l'Isère. Donc, on a beaucoup de choses. Et tout ça est raconté dans les rapports des commissaires de police. Il n'y a pas une grève où il n'y ait pas tout de suite un rapport de commissaire de police à cette époque-là, ou de police, peut-être pas de commissaire, mais de police, parce que les grèves inquiètent. Et on est très soucieux. Donc la documentation là-dessus est très, très importante. Et de fait, depuis surtout les années 80, alors que c'était des usines calmes, tranquilles, calmes, il y a une espèce d'agitation, on voit toutes sortes de petites choses qui se passent. Ça ne dure jamais très longtemps, c'est plutôt des mouvements de mauvaise humeur, des choses comme ça. Mais il y a un peu d'agitation et de mécontentement.
Avec par ailleurs le fait que le Dauphiné apparemment a une vieille tradition associative.
Mutualiste, hein,
du côté
oui.
De la Ganterie, oui. Par exemple.
Oui. Quand j'ai dit, par exemple, que Lucie Beau avait fondé la première syndicat mutuel, parce qu'elle appelle ça aussi syndicat mutuel, on m'a dit, mais attention, c'est pas la première, il y en avait eu d'autres avant. Et au contraire, Visil est un lieu où il y a eu très tôt des mutuelles. Alors, le mutuel et syndicat, ce n'est pas la même chose. Une mutuelle, c'est un peu, au fond, une caisse d'assurance où les gens mettent des cotisations pour assurer les jours de chômage, les jours de maladie, quelquefois leurs funérailles. Rarement les grèves, parce qu'on ne parle pas de grève dans les statuts des mutuelles. Mais enfin, il y a une tradition associative.
Alors, la grève démarre en 1905, au mois de mars. Elle va durer jusqu'au mois de juillet. Les ouvrières réclament le maintien des salaires. Elles demandent la réintégration de celles qui ont été exclues. Elles aimeraient aussi que leur syndicat soit reconnu. Et ça, il n'en est absolument pas question pour le patron.
Non, il n'en est pas question. Une des choses qui avait amené la grève, c'est aussi l'augmentation des cadences. Ça, c'était vraiment un problème important. Elle travaillait avec des navettes et ces navettes étaient mues par des mécaniques qui étaient de plus en plus rapides, des mules génies de plus en plus rapides. Et le patron, qui était Monsieur Duplan, elle était à ce moment-là chez Monsieur Duplan, c'était un patron qui cherchait à développer son entreprise. On ne peut pas lui en vouloir. Il faisait son métier de patron. Mais il allait aux États-Unis déjà. Et il ramenait des États-Unis des mécaniques performantes, mais sans compensation pour les ouvrières. Les ouvrières, il fallait qu'elles assurent. Les navettes allaient plus vite. Il fallait qu'elles rattachent les fils. C'était ça leur boulot. Dès que le fil casse, il faut rattacher les fils pour que la mécanique puisse continuer. Elle se faisait d'ailleurs très mal, on l'a dit ce matin, avec les fils de soie. Alors, elles protestent beaucoup contre ça, ou alors elles disent « Augmentez-nous, donnez-nous au moins des augmentations de salaire ». Mais ça, le patron, n'entendait pas de cette oreille. D'autre part, le patron, comme beaucoup de patrons déjà dans cette région, ne résidait plus sur place. Toutes les usines n'étaient pas paternalistes, le système paternaliste était un petit peu en déshérence. Et lui, monsieur Duplan, il habitait Lyon, ou alors au moment où les ouvrières revendiquent, il est sur la Côte d'Azur. Il est à Cannes. Ça fait pas bon effet. Hein, monsieur Duplan qui est à Cannes, les patrons, c'est bien ça. Mais ceci dit, Lucie réussit à le faire revenir. Elle fait tant et si bien, parce que il y a un directeur en dehors du patron, mais elle dit, je ne veux pas voir le directeur, je veux voir le patron. Voilà. Et tant que le patron ne nous recevra pas, eh bien, nous ne reprendrons pas le travail. Finalement, le patron revient. Et il y a même une entrevue à la mairie de Visil, qui à cette époque-là était tenue par un radical, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas vraiment à gauche, mais quand même un peu. À l'époque, les radicaux sont quand même assez à gauche. Donc, il se donnait un rôle de médiateur. Et il ménage une entrevue entre Lucie et Monsieur Duplan. Cette scène est extraordinaire. Elle est racontée par un journaliste qui l'a vue. Et il nous montre Monsieur Duplan et Lucie. Monsieur Duplan à Lucie. Enfin, madame, vous mettez tout Visil à feu et à sang. Vous menez Visil. Et je ne peux plus me faire entendre. Il lui dit ça. Et Lucie, et pourtant, lui dit-il, et pourtant, vous n'êtes qu'une petite femme. Et Lucie, qui n'était pas très grande apparemment, se redresse sans doute de toute sa taille et lui dit, je suis peut-être une petite femme, mais vous, monsieur Duplan, vous êtes un patron profiteur, un capitaliste, comme ça, lui dit, qui vivait de la sueur du peuple, c'est le langage de l'époque, bien sûr. Le ton monte, et il faillit en venir aux mains. Il a fallu que le maire intervienne pour que Lucie et le patron de ce... Bon, ce qui est quand même étonnant. Ce sont des relations sociales qui sont en train de devenir distantes et en même temps qui ont encore une certaine proximité, physique même, hein, puisqu'ils sont là à presque s'affronter. C'est une scène emblématique.
Alors, donc c'est la grève, elle dure, on a dit, 3-4 mois, même un peu plus. Qu'est-ce que font les ouvrières le soir? Notamment, elles se réunissent place du Château. Il y a des défilés, on chante l'International, la Carmagnole, la Marseillaise. Et puis, il y a ces fameux charivaris. Vous pourriez nous dire ce que sont ces charivaris?
Le charivari est une très vieille forme traditionnelle de manifestation de protestation. Ça vient du fond des âges, hein, du Moyen-Âge. Et ça consiste à aller sous les fenêtres de la personne que l'on veut conspuer, en somme, avec des casseroles. On tape sur des casseroles. Voilà, en gros, c'est pas... on chante. Bon. Et là, elles le font contre le patron et contre le directeur aussi, parce qu'elles aimaient encore moins le directeur que le patron. Donc elles vont faire des charivaris, prennent des casseroles, des bassines, et puis allez, elles tapent dessus, et elles chantent, elles crient, et elles vont manifester leur mécontentement sous les fenêtres, comme ça. Mais attention, la grève est longue et c'est un problème. Beaucoup d'ouvrières rentrent chez elles d'ailleurs, parce qu'elles étaient quand même dans la campagne, hein, tout autour. Donc la grève dure. Bon, bah, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent à la maison. Mais il y avait une catégorie d'ouvrières qui ne pouvaient pas rentrer. C'était les pensionnaires, justement, les femmes des internats et les Italiennes. Les Italiennes qui étaient pieds et poings liés là. Alors, Lucie a l'idée d'organiser, et elle le refera d'ailleurs à Voiron l'année suivante, des cuisines collectives. Elle organisait des cuisines collectives, c'est-à-dire qu'elle demandait aux paysans et elle demandait aux commerçants, et visiblement, il y en a qui ont été solidaires, d'apporter des vivres, et puis elle faisait des grandes soupes comme ça. Puis on venait, et elle dit Lucie, parce qu'elle a témoigné là-dessus plus tard, les paysans venaient goûter notre soupe et la trouvaient très bonne.
Oui, parce que c'est une préoccupation pour elle. Les ouvrières ne mangent pas tous les jours à leur faim. Absolument. Et qu'au moins pendant la grève, elles aient ce qu'il leur fallait.
Oui, oui,
On parle de soupe communiste.
Oui. C'était une pratique qui était assez généralisée à cette époque-là. Elle n'en est pas la créatrice. Il y avait eu des soupes comme ça, à Fougères, en Bretagne, enfin un peu partout. C'était une espèce de pratique de solidarité qui se prenait à ce moment-là. Le mot communiste n'ayant aucun rapport avec le communisme d'aujourd'hui. Soupe commune, ça voulait dire.
On a du mal à mesurer à quel point cette femme... C'est la personne importante du moment. Elle est, vous notez, elle est présidente du comité de grève, elle est trésorière du comité de soutien, elle est l'interlocutrice du patronat, de la mairie, voire des gendarmes, et puis elle est oratrice, elle intervient dans les meetings. C'est vraiment quelqu'un d'une personnalité extraordinaire à ce moment-là.
Elle se révèle comme une personnalité hors du commun. Et c'est vrai que ça pose plein de questions. On a envie de la connaître, dans le fond. Parce que comment cette femme, dont j'ai pu voir par ailleurs qu'elle venait d'un milieu rural ultra modeste, très pauvre, qui avait été élevée chez les religieuses, hein, elle avait été à l'école des sœurs, qu'elle avait appris à lire et à écrire, visiblement, elle est très alphabétisée. Malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui la prédisposait tellement à la révolte. Et elle est là, ça pose plein de questions.
Le 1er mai, il y a un meeting, un grand meeting, qui est organisé à la Bourse du Travail.
Alors ça, c'est l'année suivante.
C'est l'année suivante, l'année suivante. Alors, on en parlera après. Cette grève, malheureusement, c'est une impasse.
total, total. Il y a eu tout de même, elle dit, elle, qu'il y a eu quelques petites améliorations, notamment dans les dortoirs. Ils ont obtenu que les draps soient changés deux fois par an, au lieu de l'être une fois, comme il l'était, et elle a obtenu que ça soit un peu plus propre. Parce que c'est très curieux, on associe les religieuses, généralement à juste titre, plutôt à la propreté. On pense que c'est propre. Du moins qu'il y a des religieuses, c'est propre. Bah, en fait, non. Non, mais c'est vrai. Elle dit que les dortoirs, notamment des Italiennes, étaient absolument dégoûtants. On ne changeait pas les draps. Donc, elles ont obtenu des améliorations de ce point de vue-là. Et puis, une ou deux autres petites améliorations quand même.
Voilà, alors à la fin de la grève, eh bien,
Elle est renvoyée.
Ainsi que
elle est renvoyée. Beaucoup d'autres femmes ont été renvoyées aussi. Et alors, elle, c'était quand même pas commode parce qu'elle avait ses deux filles. Et il semble pas que sa famille la soutienne beaucoup. Enfin, je sais pas trop, mais apparemment, pas tellement. Elle s'en va à Voiron. Pourquoi ? Je ne sais pas très bien, sans doute peut-être elle avait des relations là-bas. En tout cas, elle retrouve à travailler très vite. Ce qui est assez curieux, enfin c'est pas curieux, mais les ouvrières étaient très facilement renvoyées, mais elles trouvaient aussi très facilement du travail. C'était pas régulé de la même manière que maintenant, il n'y avait pas des contrats de travail stables. Bon. Donc elle retrouve du travail, elle reprend là, et puis quelques mois après, allez, nouvelle grève.
On n'a pas pu repérer, identifier l'usine dans laquelle elle...
Si, on a repéré l'usine, oui, son oui, nom-là oui. est en train de m'échapper, mais on mm-hmm. la connaît très bien. Mm-hmm. C'était une des usines importantes de Voiron.
D'accord. Oui. Mm-hmm. Alors, en février 1906, il y a une grève.
Ah oui. Alors, la grève de 1906 est une grève qui revêt une importance toute particulière parce qu'elle commence en avril et elle s'en va vers le 1er mai. La grève étant très longue, ben, voilà, l'horizon du 1er mai. Or, le 1er mai, à cette époque-là, c'était pour le mouvement ouvrier de l'époque un espèce de rendez-vous. Tous les ans, au 1er mai, les travailleurs cessaient le travail et puis manifestaient leur force. Plus ils étaient nombreux, plus ils montraient qu'ils étaient forts et unis. Et certains ouvriers pensaient qu'un jour, on serait tellement nombreux, ils seraient tellement nombreux à faire grève, qu'ils arriveraient à déclencher la révolution. Il y avait... dans le syndicalisme de cette époque-là, qu'on appelle le syndicalisme d'action directe, une vision, un peu utopique sans doute, hein, d'une révolution pacifique. Les ouvriers représentaient une telle énergie que s'ils s'arrêtaient, toute la société s'arrêtait. Et par conséquent, il suffisait, dans l'idée de ces gens, que les ouvriers soient conscients de ça, conscients de leur force, qu'ils arrêtent de travailler, qu'ils croisent les bras, qu'ils arrêtent les machines. Le pays, au bout de 8 jours, ne peut plus fonctionner et on va peut-être faire la révolution. Voilà ce qu'ils avaient dans l'idée. Et Lucie a probablement partagé cet espoir. D'autant plus qu'il y avait un leader que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Oda, A-U-D-A, qui était un Italien d'origine, c'est pas dépourvu d'intérêt, parce que cet ouvrier d'origine italienne, Lucie va attirer son attention sur les Italiennes, et il va venir leur parler en italien. Oh, elle trouve ça extraordinaire, hein, extraordinaire. Je pense que si elle avait été amoureuse de quelqu'un, elle aurait été amoureuse d'Oda, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, elle avait pour lui une admiration absolument, absolument formidable. Et donc, il y a dans tout ça un espèce d'espoir, vous voyez, espoir, plaisir, joie, quelque chose qui monte et puis qui retombe, voilà. Et ça, on peut comprendre que nous avons maintenant une toute autre attitude vis-à-vis des mouvements sociaux et des grèves. Nous ne faisons plus d'illusions et c'est plus du tout ça. Mais ces gens mettaient une foi, vous voyez, une espèce de croyance que nous jugeons à distance un peu utopique et folle, mais qui les emportait complètement. Alors après, c'est la déprime. Hein. Thank you.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Michel Perrault. Pour finir, nous écoutons un morceau de piano de Satie joué par Pascal Roger dans Nocturne 2 de l'album Piano Works.
Alors pendant cette seconde grève, on a l'impression que Lucie Beau est un petit peu en retrait. Elle
oui.
est moins active qu'elle ne l'était à Visil.
Elle n'est pas, elle est très active, mais elle n'est plus leader.
Au premier plan.
Parce que y a, Voiron est une ville beaucoup plus organisée que Visil, où il y avait déjà toutes sortes de syndicats. Donc bon, les gens tiennent leur rôle. Et elle, à ce moment-là, elle, c'est elle qui dit, mais il faut refaire des cuisines collectives, des cuisines communistes. Il faut refaire ça. Et c'est à ce moment-là, alors, et elle dit dans son témoignage qu'elle elle était la cuisinière de la grève. Ce qui laisse entendre que là, elle retrouve peut-être un rôle estimé plus féminin, si on peut dire.
Alors j'ai noté que, à l'occasion de ce meeting à la Bourse du Travail de Grenoble, le 1er mai, elle intervient,
oui.
elle vient à la tribune,
ah oui.
et là, elle a
Quand
droit
même.
Au titre de camarade.
Absolument, absolument, oui, oui. Oui, on a l'impression qu'elle fait ses preuves, qu'elle monte en grade, si l'on peut dire, enfin, en estime, et que progressivement, on l'incorpore. Les ouvriers étaient quand même tout à fait conscients de sa valeur. On n'a pas dit, parce qu'on n'a pas eu le temps, que quand elle a quitté Visil, ils ont organisé en son honneur
oui,
un banquet,
en septembre, oui.
Une espèce de banquet fraternel, et ils lui ont offert des cadeaux, dont, dit-elle, un objet d'art. Et ça, j'avoue, j'aurais bien aimé le voir.
Alors, il y a une chose qui est troublante, c'est ce texte qu'elle signe, qui a été publié une première fois
en
1908. Ouais. Ensuite, vous l'avez
tard.
Fait republier plus tard. Et puis
bien
là,
plus tard.
Dans le livre,
oui.
Nous pouvons le lire intégralement. Oui. On n'est pas certain que ce soit elle qui l'ait écrit de sa main.
Oh.
Elle le signe, mais c'est peut-être pas elle.
Oui, alors ça, c'est très difficile. La substance est d'elle, parce que c'est sa vie. Il y avait des renseignements très précis, y compris de la manière dont elle mène la grève. Et puis elle dit « je » de temps en temps. Pas souvent, mais quand même. Alors, est-ce qu'elle l'a écrit toute seule? Est-ce qu'elle l'a écrit avec l'aide d'un journaliste? Gérard Mingat, lui, pense. Il dit, elle avait beau être bien alphabétisée, elle l'était, écrire un texte léché comme ça, l'expression est de Gérard Mingat, elle a dû être aidée par un journaliste. Oui, peut-être, peut-être. Ça résoudrait d'ailleurs l'énigme de savoir comment ce texte a été publié en 1908 dans une revue totalement inconnue de tout le monde, bien sûr, maintenant, mais qui était importante à l'époque. C'était une revue qui s'appelait Le Mouvement Socialiste. C'était une revue, c'est pas du tout une revue du Parti Socialiste, c'était plutôt des intellos, on peut dire. Hein. Des intellos, oui, assez connus même à l'époque, des jeunes gens, la plupart du temps, des étudiants du Quartier Latin, qui avaient foi dans le mouvement ouvrier. Et qui ont accueilli ce texte, peut-être l'ont-ils sollicité, ça c'est un mystère. En tout cas, ce texte est publié là, en 1908, et dans cette revue, il y avait 95% de signatures masculines. Autrement dit, Lucie Beau, cette ouvrière obscure, la voilà qui est publiée dans cette revue parisienne, connue, à côté de noms comme Rosa Luxembourg, car la revue donne des traductions, bien entendu, de textes de Rosa Luxembourg, mais elle est là, à côté. Vous avouerez que c'est une aventure, dont elle a probablement, j'espère, tout ce que j'espère, c'est que, comme elle est morte en 1913, elle a su que son texte était paru. Du moins, j'espère qu'on le lui a dit. Vous savez, on n'est sûr de rien. Hein. Une fois que la grève est finie, les gens rentrent un peu dans leur habitude. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle est repartie. Elle a quitté Voiron à nouveau. Hein. Mais j'espère quand même qu'elle l'a su. Parce que c'était malgré tout un couronnement extraordinaire.
Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu le titre du bouquin, qui est magnifique, mais qui en même temps... côté nostalgique absolument très fort, mélancolie ouvrière, hein, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce lendemain de grève qui fait qu'on
oui.
a l'impression qu'on n'a pas réussi.
Je pense qu'il y a plusieurs sens dans ce mot mélancolie. Il y a un sens Lucie d'abord. Tout de même, voilà deux grèves qui échouent. Elle est obligée, je le disais à l'instant, de quitter à nouveau Voiron. Elle s'en va encore un peu plus vers le nord du Dauphiné, et avec toujours ses deux filles, plus loin encore de sa famille. Probablement, encore une fois, pas soutenue par sa famille. L'oubli dont elle a été l'objet dans sa famille est quand même extraordinaire. Et laisse supposer qu'on n'a pas cherché à se souvenir d'elle, qu'on a vraiment tourné la page. C'est une solitude très grande, d'où la tentative de suicide aussi. Tentative de suicide d'ailleurs qu'elle fait à Voiron, hein. Elle est partie après. Elle l'a fait très vite après la fin de la grève. On ne sait même pas si, au fond, elle avait déjà rédigé son texte ou pas. Ça, c'est vraiment difficile à savoir. Déprime quand même. Hein. On ne se tire pas comme ça trois balles de revolver dans la mâchoire en face. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle avait eu cette arme ? Là, vous voyez, quand je dis qu'il y a des énigmes dans sa vie, il y en a quand même pas mal. Donc, j'imagine une femme malgré tout mélancolique. Et puis, mélancolie du mouvement ouvrier de l'époque. Parce que 1906 marque, dans l'histoire générale alors, du mouvement ouvrier à ce moment-là, une espèce de montée en puissance, avec cet espoir que j'ai dit tout à l'heure, et puis une retombée. Les premiers mai qui vont suivre vont être de plus en plus réduits. Et puis les événements internationaux arrivent, bon, et finalement, l'espoir de changement social s'éloigne beaucoup. Mélancolie du mouvement ouvrier aussi. En l'écrivant ce livre, j'ai pensé aussi beaucoup aux fermetures d'usines actuelles. C'est quand même pas une situation facile pour la classe ouvrière d'aujourd'hui, avec la désindustrialisation, etc. La classe ouvrière n'est plus l'avenir du monde, comme Lucie pouvait peut-être le penser à son époque, à juste titre d'ailleurs. Hein. Donc mélancolie, assurément, mélancolie plus luxueuse pour moi, il faut bien le reconnaître, qui, historienne, qui n'arrive pas, malgré tout, à connaître complètement celle qu'elle cherche.
Alors justement, si vous permettez, quelques-unes des dernières lignes de mélancolie ouvrière. Mais décidément, Lucie m'échappait. Elle refusait de se laisser cerner et enfermer dans une chronologie. Elle n'était jamais là où on la croyait. Il était temps de quitter cette rebelle qui me défiait, d'en finir avec cette vie dont le mystère me fuyait et m'obsédait. J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on dise quelques mots de cet autre livre que vous avez écrit, « Les femmes ou les silences de l'histoire », qui est un rassemblement d'articles publiés dans diverses revues.
Mais c'est plus vieux, ça. Hein. C'est plus mais 96.
Dans lesquels vous étudiez la place de la femme, ou plutôt l'absence de la femme dans l'histoire.
Oui, pour aller vite.
À travers quelques portraits, le portrait que je trouve très intéressant, des filles de Karl Marx, par exemple. Et puis, vous évoquez un journal intime.
Caroline Braham.
Braham, qui a été trouvée un jour, je ne sais plus, dans un marché aux puces un bouquiniste. Une chose assez incroyable, un cahier de 300 pages qui raconte 2 ans de la vie d'une femme.
Journal.
Deuxième moitié du 19e siècle. Vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, pour aller vite sur ce recueil, c'est un recueil que j'ai fait à la demande aussi d'une maison d'édition, où j'ai rassemblé, alors là, des articles. Hein. Ça n'a pas l'unité d'un livre, mais j'ai essayé de recomposer des parties à l'intérieur de ça. Et vous faites allusion notamment aux portraits de femmes et aux traces de femmes. Pour revenir à Caroline Braham, ça c'est quand même une belle histoire aussi, une histoire intéressante.
Ah
oui. Je faisais à Jussieu, à Paris 7, mon université, un séminaire sur le journal intime. J'avais donc pas mal d'étudiants, et un jour, un de mes étudiants arrive et pose sur la table un petit cahier relié. Il me dit « Michel Perrault, ça va vous faire plaisir. » Ah bon ? Je regarde et je vois une écriture. Alors, très rapidement, comme le séminaire allait commencer, il me dit « C'est un journal intime d'une jeune fille. Je l'ai identifié comme tel et je l'ai acheté aux puces. » Oh, extraordinaire ! Alors, évidemment, après, nous avons parlé longuement de ce journal intime et nous l'avons publié. Nous l'avons publié, lui et moi, lui en s'attachant plus particulièrement à l'histoire de la famille Braham, qui est une famille notable, famille même d'assez grande bourgeoisie, un père polytechnicien, une famille industrielle du Nord, les scribes, des gens assez connus. Et cette jeune femme, eh bien, elle était dans une famille pieuse, hein. Sa maman était morte, elle était donc avec son père et c'était pas facile parce que le père était un polytechnicien sévère, rigide, hein, qui n'était pas du tout porté aux épanchements et aux problèmes des jeunes filles. Et donc elle essaie de vivre, elle est dans un milieu riche sans doute, mais au fond elle n'en vit pas tellement mieux pour ça parce qu'elle n'est pas très bien dans sa tête. Et elle est amoureuse, cette jeune fille, à un moment donné. Elle l'écrit timidement dans son journal. Très timidement. Il faut lire ça comme ça. Et puis, sa famille s'en aperçoit et lui dit « Oh non, non, si tu veux épouser un tel, c'est pas possible. » Reconnaissons-leur une excuse Le jeune homme était tuberculeux. À l'époque, c'était très grave, la tuberculose. Donc, toujours est-il qu'elle quitte cet amour et elle n'a plus qu'une tante qui lui raconte tout ça. Et la tante, à quelques temps de vie, lui dit « On va te présenter quelqu'un parce qu'il faut que tu te maries. » La tante l'emmène à la messe et lui dit « 4 ans devant, tu vois ce jeune homme là-bas, tu vois ?» C'est le fils Orville. Alors, c'était quand même une jeune fille un peu gentille, hein. Oui, bon, non. On lui dit, attends, on va te le présenter quand même. Mieux. Alors, le deuxième lieu de rencontre, c'est le Louvre. Parce que, comme dit Baudelaire, les musées, c'est le seul lieu convenable pour une femme. Alors, elle est emmenée par sa tante dans une galerie du Louvre. Le jeune homme est là, bien sûr, le rendez-vous est prévu. On les présente, ils se saluent. Et puis, alors, sa tante lui dit après, alors, ben oui. Si tu veux, me déplaît pas. Un mois après, ils sont mariés. Et ceci se passe dans les années 1865, la fin du Second Empire. Voilà. Autrement dit, de la liberté des femmes. Alors, nous avons publié ce journal. Après, on a eu toutes sortes d'aventures avec ce journal parce que il y a une descendante qui a reconnu sa grand-mère et qui nous a fait signe en disant « Mais je suis très, très intéressée » et qui nous a donner d'autres documents sur elle, y compris un journal qu'elle avait écrit sur... Enfin bref, il y a eu toutes sortes de prolongements. Et il y en a même un qui date d'il y a 3 mois, où j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui m'a dit « Madame, c'est tardivement que j'ai lu votre livre sur Caroline Braham. Mais figurez-vous que dans les puces, j'ai acheté 6 volumes d'un journal et je crois que c'est la même que la vôtre. » Alors, autrement dit, ce journal, elle le tenait vraiment, et il y en a des épaves, vraiment. On va sans doute, on va plus rien faire là-dessus, mais on va quand même, par curiosité tout de même, voir les autres volumes. Ça, c'est intéressant parce que c'est les traces des femmes. Ça pourrait ne pas être une femme, mais il se trouve que les femmes, tout de même, écrivaient un peu plus de journaux intimes que les hommes, hein, souvent. Et cette histoire des femmes qui est si difficile à faire, ces femmes inconnues comme ça, quand on a des petites traces comme ça, on va le plus loin possible.
Alors, dans l'introduction générale de ce bouquin, qui est donc postérieur aux articles qu'il contient...
96, oui.
Oui. Vous écrivez « Le silence est l'ordinaire des femmes. Il convient à leur position seconde et subordonnée. Il sied à leur visage lisse, souriant à peine, non déformé par l'impertinence du rire bruyant et viril. » Bouche fermée, lèvres closes, paupières baissées, les femmes ne peuvent que pleurer, laisser les larmes couler comme l'eau d'une inépuisable douleur dont, selon Michelet, elles ont le sacerdoce.
On ne saurait mieux dire.
Il y a des pages très intéressantes, des articles très intéressants sur le travail des femmes, notamment au 19e
siècle. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur le travail.
C'est formidablement intéressant, je trouve.
C'est sympathique à vous de le dire. Mais le travail, oui, c'est une des. C'est quand même. Quand j'ai commencé à travailler sur les femmes, comme j'étais plutôt dans l'histoire du travail, c'était ça ma spécialité, si l'on peut dire, au point de départ, j'ai commencé par travailler sur le travail des femmes. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis après, je suis parti dans toutes sortes de lieux.
Voilà, et quand vous évoquez la mécanisation, par exemple, hein, vous dites, si vous permettez, je vous cite encore une fois, tantôt la mécanisation, donc tantôt elle recompose le travail, le requalifie et le masculinise, filature, tantôt elle le découpe, le parcellise et le féminise, tissage. La place des femmes n'est pas réglée par la technique, mais par les questions de statut qui attribuent aux hommes les postes de commandement, les outils compliqués et aux femmes les tâches d'auxiliaire effectuées à main nue. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos des ouvrières de la soie.
Oui, tout à fait. Dans les usines textiles, où nous l'avons vu ce matin avec M. Herrero, que ce sont des femmes, hein, des femmes à 95%, quand il y a des hommes, c'est pour la réparation des machines ou alors pour des travaux plus compliqués comme gareur ou d'autres choses de ce genre. C'est l'idée de la qualification, c'est ça le problème pour les femmes, c'est que pour elles, c'est parvenir à des métiers qualifiés. Aujourd'hui encore, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est grand. Il est grand pour des travaux analogues, mais l'écart global, je parle de l'écart global, vient surtout du fait que les femmes sont dans des métiers peu qualifiés. Voilà. Autrement dit, la bataille pour les femmes ça a été, c'est encore, de aller le plus loin possible dans les études, dans les apprentissages, les métiers, pour arriver aux métiers qualifiés. Alors évidemment, l'organisation du travail n'est plus la même maintenant, on ne va pas faire des comparaisons, mais c'était en tout cas comme ça au 19e et largement au 20e siècle. L'importance de la qualification, parvenir à être quelqu'un de qualifié pour véritablement défendre son statut, ça c'était important.
Alors il y a un bouquin dont il faut absolument parler, c'est l'histoire des chambres, l'histoire de chambres, oui. Qui est un bouquin magnifique, je ne l'ai pas fini encore, mais absolument extraordinaire. Le chapitre sur la chambre du roi, c'est terrifiant d'être roi.
Oui.
C'est absolument extraordinaire cette chambre du roi.
La chambre du roi n'est pas un espace intime.
Non, pas du tout.
C'est un espace de spectacle.
Oui.
On se donne en représentation et la chambre est un lieu où l'on peut justement marquer les rangs. Celui qui va mettre la chemise du roi tel jour, c'est un privilège. La balustre aussi qui sépare le lit. Même si le roi ne couche pas dans son lit, il y couche un petit peu mais pas beaucoup, la balustre du roi marque la différence entre le lieu sacré du lit du roi. Le lit, c'est comme le tabernacle, c'est absolument ça. Le lit du roi, c'est le corps du roi, c'est le tabernacle du roi. Donc, personne ne peut pénétrer dans cet espace-là, ou alors avec une permission expresse que le roi donne à tel ou tel ambassadeur ou courtisan. Autrement dit, la chambre du roi est un espace de pouvoir, un espace de représentation où toute la... Oui, le despotisme au fond du roi se marque dans les moindres gestes. C'est vraiment un espace de pouvoir très intéressant à analyser.
Bouquin magnifique. Et si vous permettez, avant de terminer l'entretien, j'aimerais justement lire un extrait du premier chapitre, l'histoire de chambre, où l'érudition de l'historienne est servie par une plume absolument magnifique, je trouve. Métaphore de l'intériorité, du cerveau, de la mémoire. La chambre, structure narrative, romanesque et poétique, est une représentation qui rend parfois difficile la saisie des expériences qu'elle médiatise. Fugitif, étranger, voyageur, ouvrier en quête d'une pièce, étudiant désuré d'une mansarde et d'un cœur, enfant curieux et joueur, amateur de cabane, couple assuré ou vacillant, femmes avides de liberté ou acculées à la solitude, religieux et recluses affamées d'absolu, savant qui puise dans le silence la solution d'un problème, lecteur boulimique, écrivain qu'inspire le calme vespéral, sont autant que le roi les acteurs de cette épopée camérale. La chambre est le témoin, la tanière, le refuge, l'enveloppe des corps, dormants, amoureux, reclus, perclus, malades, expirants. Les saisons lui impriment leurs marques, plus ou moins ouvertes, feutrées, de même que les heures du jour qui la colorent si diversement. Mais la part nocturne est sans doute la plus importante. Ce livre est une contribution à l'histoire de la nuit, une nuit vécue à l'intérieur, sourdement bruissante des soupirs de l'amour, des pages tournées du livre de chevet, du grissement des plumes, des tapotis de l'ordinateur, du murmure des rêveurs, du miaulement des chats, des pleurs des enfants, des cris des femmes battues, des victimes, réelles ou supposées, des crimes de minuit, des gémissements et de la toux des malades, du râle des mourants. Les bruits de la chambre composent une étrange musique. Merci Michel Perrault.
Merci pour cette émission autour de Michel Perrault. Merci Daniel, merci Dominique, et puis merci Laurent.
Merci Titane.
À très bientôt.